Bonjour, bonjour, vous êtes bien en partance pour une nouvelle édition du magazine d'actualité locale du côté de Caussade ce samedi pour une nouvelle conférence de l'Université Populaire autour de Pierre Fize, grand seigneur catalan du XVIIe siècle qui apparemment serait né dans le Quercy d'une famille pauvre. On retracera son parcours étonnant avec Patrice Poujad qui animera la conférence après la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la Comcom QRGA et surtout avec Victor Le Guénec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et tout de suite, on cause jazz, mode, impro et trompette. Je vous annonce la couleur de but en bleu. Aujourd'hui, c'est Kind of Blue de Miles Davis. Sorte de bleu qui sont un album des plus mythiques de l'histoire du jazz. Alors, contextualisons. Né en 26, Miles Davis grandit à East St. Louis, là où eut lieu en 1917 l'un des lynchages les plus sanglants des États-Unis. Et c'est dans ce décor qu'il découvre le racisme et débute la trompette. Inscrit plus tard à la Juilliard School à New York, il s'en désintéresse. Alors il squatte les clubs de la 52e rue, à la recherche de jams et de musiciens. Bref, ça bebop à tout va dans la fumée des clubs. Cependant, il manque de technique pour prétendre au niveau des Fats Navarro ou autres Dizzy Gillespie. En 1949, à 23 ans, malgré quelques albums enregistrés, notamment Birth of the Cool, sa carrière n'a pas décollé. Arrive la première tournée. Au Festival international de jazz de Paris, tout le monde est là, Parker, Béchette, Damron, Reinhardt. Là-bas, il y découvre la passion des Parisiens pour le jazz, mais aussi un monde moins raciste, plus ouvert. Il y rencontre Picasso, Sartre et surtout Juliette Gréco, avec qui il entame une relation. Là-bas, il intrigue. C'est un petit séjour paradisiaque avant de rentrer à New York et de sombrer dans l'enfer de l'héroïne et de la cocaïne. C'est finalement en 54, presque clean, qu'il passe d'un excellent trompettiste à un jazzman de génie. En 58, à l'époque où le jazz, musique anticonformiste par excellence pour les réalisateurs, entre au cinéma par la grande porte, Miles, lui, traîne encore à Paris, gigantesque carrefour musical. Et là où les Jazz Messengers avec Art Blakey, Monk et Lee Morgan enregistrent pour les Liaisons dangereuses de Vadim, Miles, lui, improvise en direct la bande originale d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Puis vient l'année 1959, l'année de la pilule de la puce électronique de Zazie dans le métro et de Fidel Castro. On est en pleine course à l'espace. En France, la nouvelle vague bat son plein et Blondin publie Un singe en hiver. Aux États-Unis, Preminger sort dans les salles Anatomie d'un meurtre. Tout explose. Le maccartisme s'est éteint et le Vietnam brûle. Cette année-là sortent les albums Giant Step de Coltrane, Tomorrow is a Question d'Ornette Coleman et surtout Kind of Blue de Miles Davis. Trois albums sans réelles équivalences dans l'histoire du jazz de l'époque, c'est fondamentalement nouveau. Miles enregistre chez Columbia, une des plus anciennes maisons de disques fondée en 1889, le label où il faut être, celui qui domine le marché du disque, celui qui a produit Bartok et Armstrong, Ellington et Michael Jackson, Simon & Garfunkel. Et il s'installe dans le studio de la 30e à Manhattan, le plus grand des meilleurs studios, c'est une ancienne église arménienne. 30 mètres de long sur 15 de large et de haut, une acoustique naturelle parfaite et un dispositif de réverb improbable. On repique avec des micros les sons diffusés par des haut-parleurs qui résonnent dans les sous-sols. Là-bas, ils sont passés Stravinsky, Gillespie, Les Floyd, Joplin, Dylan, bref, tout est prêt. Arrivent les protagonistes. Outre le charismatique et sûr de lui, Miles à la trompette, son exact opposé, l'introverti Bill Evans au piano. À l'exception d'un morceau joué par Wynton Kelly, mais aussi les saxophones de John Coltrane et celui de Cannonball Adderley. On retrouve en plus Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. Miles, avec sa first take philosophie, la première prise est la bonne, esquisse sans répétition avant la séance les idées musicales, mais laisse la spontanéité prendre le dessus. Et l'enregistrement débute. Enregistrement en live, c'est à peine le début du multipiste. Dans cet album, Miles Davis explore les modes. Entendez une échelle sonore révélant une ambiance, pas d'harmonie complexe, de gamme qui défile, mais on explore, on se promène. Ce qui dégage, par rapport au bebop, une formidable liberté d'expression. Avec le morceau So What, sur une structure AABA classique, Miles et son groupe nous donnent l'exemple type du jazz modal. Après l'exposition du thème, qui s'inspire de l'hommage à Rameau de Debussy, les choruses s'enchaînent un par un et nous promènent ces fluides mouvants et mélodieux, bref, une atmosphère liquide. Mais je m'emporte. Kind of Blue, un album de 5 morceaux qui deviendra l'album de jazz le plus vendu au monde. L'équivalent de 4 disques de platine, un album que vous pouvez retrouver dans le réseau des médiathèques du QRGA. Et tout de suite, on en écoute un extrait. Alors, on ouvre gants et esgourdes pour rien d'autre que So What. Bonne écoute et à bientôt. Thank you.
Miles Davis à l'instant dans la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la Comcom QRG. Et avec Victor Le Guenec des chroniques que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur le site cfmradio.fr. Nous, après la musique, on prendra la direction de Caussade pour une conférence de l'Université Populaire. C'est ce samedi, une conférence autour du seigneur catalan Pierre Fizan.
This place misused, mistakes too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left.
FM Kélus, le mag.
Une conférence dans ce mag, une conférence de l'Université Populaire de Caussade, une conférence autour de Pierre à Perle Fize, retour sur les pas des Fize entre Quercy et Catalogne au XVIIe siècle. Une conférence qui sera animée par Patrice Poujade. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités. Vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ces Fize. Il s'agit d'une famille, on imagine.
Oui, je ne peux pas trop en dire non plus, parce qu'il faut quand même que je ne déflore pas tout avant la conférence. Donc, il s'agit d'une famille, effectivement, dont j'ai essayé de reconstituer le parcours, une famille que j'ai rencontrée enfin, que j'ai rencontré. C'est une famille du XVIIe siècle, donc effectivement, la rencontre a été un peu à distance, disons, à distance temporelle, que j'ai rencontré en Catalogne par un peu le hasard de mes recherches, et ensuite, donc, m'intéressant à elle, et en particulier au chef de famille, si je puis dire, ce fameux Pierre, justement, qui devient ensuite père-fils en Catalogne. J'ai essayé de remonter pour voir qu'est-ce qu'il en était de cette famille, et effectivement, cette famille, et en particulier le chef de cette famille, était originaire de Puy-la-Roque, d'où cette conférence aussi que je donne à Caussade.
Voilà. Vous avez pu retracer son parcours un petit peu grâce à une correspondance conservée. Vous avez pu retracer le parcours de ses itinéraires. Il y en a eu, hein, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la migration marchande. Pierre Fize, vous avez pu partir du château de Terrassa, on est en Catalogne, en 1661.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc moi je suis parti de Pierre Fize, enfin devenu Pere Fize, donc en Catalogne, qui est devenu un notable très important parce qu'il devient seigneur, hein, de cette ville qui est aujourd'hui une ville importante. C'est la troisième ville de Catalogne aujourd'hui, Terrassa, qui est à quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres, disons, un peu au nord-ouest de Barcelone, et qui est une ville industrielle aujourd'hui. Et donc, il devient seigneur de cette petite ville à l'époque, 1661 exactement. Il s'installe dans le château, dont il reste aujourd'hui une tour, hein, la tour qui est en plein centre de cette ville. Et à partir de là, j'ai essayé de comprendre comment cette personne a pu connaître une telle ascension sociale, parce que cette personne, moi je l'avais rencontrée aussi comme marchand migrant, disons, à Toulouse, à Lérida, en Catalogne, à Barcelone, et ensuite achetant cette seigneurie et devenant ce seigneur. Et donc voilà, et j'ai voulu en savoir un peu plus comment cette ascension sociale a été possible, et c'est là qu'effectivement j'ai compris qu'il était issu de la migration, et de la migration de Quercinois, justement, qui n'est pas une migration très très importante ni très connue d'ailleurs, vers la Catalogne, voilà, au XVIIe siècle.
Sur le site de l'Université populaire de Caussade, www.up-caussade.fr, on peut retrouver donc le programme des conférences, notamment de celle-là de ce samedi autour donc de Pierre, Père, je n'arrive pas à le prononcer comme vous. Hein.
Non, c'est très bien.
Fils. Donc on est en 1661. Il vient du Quercy pour s'installer donc à Terrassa, en Catalogne.
Ouais,
comment est-ce qu'il est arrivé là? Quel était son itinéraire? Et puis vous parlez aussi de loyauté, entre guillemets.
Alors, comment il est arrivé là, justement, ça reste un petit peu une énigme, comment un fils ou un enfant de Puy-la-Roque, justement, qui était né aux environs de 1602, à peu près, hein, autour, donc au début du XVIIe siècle, fils d'un habitant de Puy-la-Roque qui faisait aussi quelques affaires, en particulier qui achète beaucoup de terres, puisque moi j'ai dépouillé aussi les notaires de cette époque-là de Puy-la-Roque. Donc son père achetait beaucoup de terres, et lui, justement, le fils, à un moment donné, il s'en va. Et alors là, je ne sais pas pourquoi il s'en va, par contre, hein, parce que je n'ai pas de documentation précise de cette époque-là. Il s'en va, il fait du commerce, il s'associe avec des marchands auvergnats qui font du commerce en Catalogne et en Aragon. Alors là, on connaît mieux ces migrations auvergnates, hein, qui sont très anciennes, de marchands. Il s'associe, et je le trouve au début des années 1620, à Toulouse, justement, où il achète, en compagnie d'auvergnats, des marchandises, et ensuite, ces marchandises, il va les revendre, jusqu'à se marier. Alors, est-ce que c'est l'amour qu'il a fait installer en Catalogne, alors que d'autres marchands, migrants comme ça, rentrent au pays en général? Il se marie avec une fille donc de la région de Lérida, en Catalogne, et à partir de là, il devient marchand, à poste fixe, disons. Il tient une boutique de vente de tissus, de textiles, enfin de vêtements, enfin, etc., et puis il part à Barcelone. Et ça aussi, c'est une autre question. Pourquoi partir à Barcelone dans les années 1640? Alors Barcelone était un port, bien entendu. Est-ce qu'il est attiré par ce port? Et il s'installe dans le quartier des affaires, hein, des affaires de Barcelone, et il s'enrichit. Voilà, il s'enrichit beaucoup, beaucoup. Et ensuite, ensuite tellement enrichi qu'il peut acheter effectivement cette seigneurie en 1661, comme vous l'avez dit. Voilà.
Patrice Poujade, vous restez avec nous. Après la musique, on parlera des correspondances qui vous ont permis de retracer les pas de Pierre Fils. Donc, à propos de cette conférence qui sera donnée ce samedi à 16h30 au Récollet, une conférence organisée par l'Université populaire de Caussade. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft.
CFM Keylus, Le mag.
On est bien dans le mag sur CFM Radio à propos de Pierre Fiz. Pierre Fiz qui était d'origine quercinoise, plus spécialement de Puy-la-Roc, et qui a fini grand seigneur en Catalogne. De Pierre à Père Fiz, retour sur les pas des Fiz entre Quercy et Catalogne au XVIIe siècle. Une conférence organisée par l'Université populaire de Caussade et animée par Patrice Poujade. Vous avez pu retracer son parcours Père Fiz, notamment grâce à sa correspondance. Vous avez fait le tour des bibliothèques de l'Espagne à la France. Comment ça s'est passé?
Alors, sa correspondance, effectivement, c'est... Alors, on a relativement peu, ou alors de très très grands marchands italiens, etc., mais de peu de correspondances marchandes, souvent, ou de familles marchandes. Là, on a un fonds qui est déposé aujourd'hui aux archives de Terrasse, justement, où il avait acheté sa seigneurie, de 1000 lettres. Alors, c'est la correspondance qu'il a reçue, ce qu'on appelle la correspondance passive, qui le met en relation avec l'ensemble des places commerciales de l'Europe, du nord de l'Europe, Amsterdam, l'Angleterre, Paris, ensuite plus au sud, Lyon, la Suisse, etc., et puis plus au sud encore, Marseille, etc., Toulouse, bien sûr, aussi, etc. Ça a été le fond important. Alors, dans ces archives, il y a aussi non seulement cette correspondance, mais il y a aussi ces archives de marchands, de livres de comptes, etc. Et puis, moi, je suis parti en quête aussi sur le chemin de la migration, disons, alors que ce soit Barcelone ou ailleurs, de la documentation notariale, et en particulier j'ai voulu voir, quand je pouvais le trouver bien sûr, ce qu'il faisait quand il se déplaçait, et donc je l'ai rencontré un petit peu au fil, alors c'est j'allais dire, c'est une petite aiguille que j'ai dû trouver dans la meule de foin, non seulement donc à Puy-la-Roc, effectivement, où je l'ai retrouvé, à Toulouse, mais aussi dans d'autres villes entre les deux, disons, où il se déplaçait. Et ensuite à Barcelone, bien entendu, aussi, où il a laissé pas mal de documentation notariale. Il a fait son testament, d'ailleurs, aussi, qui est important, puisque là, on a une source importante pour reconstituer précisément sa famille. Voilà. Enfin, donc, j'ai essayé de suivre un petit peu le fil où j'ai pu le suivre.
Drôle de personnage, hein, quand même, que ce Pierre Fiz, qui part pauvre depuis la Roque et qui finit seigneur en Catalogne. On est là en 1661, hein, quand il a acquis le château de Terrassa, donc en Catalogne. Vous l'avez suivi pendant combien de temps, Pierre Fiz?
Alors, moi, personnellement, vous voulez dire, comme une année, je travaille sur lui.
C'est ça.
Ben, ça fait quand même plus de 10 ans, effectivement, que je le suis, et je m'aperçois que quand je crois avoir terminé, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Alors je ne sais pas jusqu'à quand j'en aurai encore, mais bon, je ne sais pas. Ça fait plus de 10 ans, effectivement, que je le suis, et donc j'ai essayé de reconstituer ou de restituer un petit peu son itinéraire entre son départ depuis la Roque qui se fait dans les années, au début des années 1620, d'après ce que j'ai pu reconstituer, jusqu'à sa mort, puisqu'il meurt en 1680, à Terrasse, justement, en laissant une famille, et ça aussi c'est intéressant, si je peux en dire un mot, en particulier un fils qui porte le même prénom que lui, qui est son héritier, qui fait du commerce aussi, mais qui devient noble, qui intègre les hautes sphères en Catalogne, en réalité, et ses filles qui sont toutes mariées avec des personnages extrêmement importants en Catalogne et qui sont en relation avec le pouvoir royal, en fait, en Espagne. Donc c'est quand même un itinéraire tout à fait particulier.
Oui, alors pour l'époque, et puis encore pour maintenant.
Oui.
Pierre Fiz, donc, on est au XVIIe siècle, le sujet de votre conférence, Patrice Poujade. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et que vous intervenez ce samedi à 16h30 au Récollet sur une invitation de l'Université populaire de Caussade pour cette conférence autour de Pierre Fiz, de Pierre à Père Fiz, retour sur les pas des Fiz entre le Quercy et Catalogne au XVIIe siècle. On rappelle que ces conférences sont gratuites et qu'on peut retrouver le détail sur le site de l'UP de Caussade. Patrice Poujade, encore merci et à samedi.
C'est moi qui vous remercie à samedi. Au revoir.
Et merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de ce MAC qui sera rediffusé à 17h et à 21h, réécoutable à loisir, à volonté et en podcast sur le site cfmradio.fr. Voici les infos.